Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Est-ce qu'il vaut mieux les consommer avec ou sans leur peau? Je veux parler bien sûr des fruits et légumes. Vous le savez sans doute, beaucoup de vitamines se trouvent dans la peau des fruits et des légumes. Mais lesquels peut-on manger, diantre? Pommes, poires, courgettes, pommes de terre, nous avons pour habitude d'éplucher la plupart de nos fruits et légumes. Un réflexe qui, dans certains cas, peut diminuer la qualité nutritionnelle de ces produits. En effet, la peau des fruits et légumes regorge de micronutriments. En moyenne, on estime que la peau concentre environ 25% des apports en vitamines, minéraux et antioxydants des fruits et légumes. À titre d'exemple, la peau des pommes détiendrait 4 à 5 fois plus de vitamine C que la chair, y a bon pour la santé. Astuce, quels fruits et légumes privilégier? Commencez par choisir les fruits et les légumes dont la peau est belle et bien comestible. Bien rincer les fruits et légumes avant de les manger. L'idéal serait d'essayer de les consommer tout en évitant le piège des pesticides. Raison pour laquelle le rinçage de vos aliments à l'eau est incontournable. Associé à la technique du trempage, dans une eau coupée de bicarbonate de soude, précise l'Observatoire des aliments. Même avec des fruits et légumes bio, on ne se dispensera pas du lavage ou brossage des fruits et légumes pour cause de bactéries et autres contaminations. Idée, miser sur les compotes et soupes. Une fois cuits, à l'eau bouillante et mixée sous forme de soupe ou de compote, vos fruits et légumes n'en seront que plus savoureux si vous gardez la peau. Seul souci, la cuisson peut altérer les qualités nutritionnelles de certains produits, mais bon appétit.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Une nouvelle vie pour le gymnase de la Halle-Bointon à Villefranche-sur-Saône, le joyau des années 30, restauré sous son aspect d'origine. Les travaux ont fait l'objet d'une rénovation exemplaire en performance énergétique et en mise en accessibilité. Les sportifs coutumiers du gymnase réintègrent les lieux dès cette semaine, comme nous le précise Pascal Reynaud, adjointe au développement et à la gestion du patrimoine immobilier pour la ville de Villefranche.
Oui, Paris tenu, oui, puisqu'on avait trois grands axes. On avait un axe environnemental, donc isolation, chauffage, isolation par le toit, par les murs. On est passé en géothermie au niveau du chauffage, donc grosse innovation sur Villefranche. Et puis l'accessibilité, deuxième gros axe de travaux. Donc on a mis un ascenseur pour permettre l'accessibilité des trois niveaux. Et puis mise aux normes de tout ce qui est sanitaire. Et enfin, après, ce sont tous les travaux, j'ai envie de dire, de peinture, de cloison, de choses comme ça, puisqu'on a rapatrié le siège du basket dans ce bâtiment-là. Et puis la réfection des peintures et la mise en beauté de cette entrée qui est magnifique.
Opter pour une rénovation d'intérieur modernisée tout en préservant l'essence originale guidée par l'authenticité des lieux.
Oui, c'est ça, oui, parce qu'en 1935, donc Léon Weber, l'architecte, en a fait une piscine. Le premier objet de ce bâtiment était une piscine et on est resté effectivement sur des teintes très aquatiques puisqu'on est sur des bleus, sur des oranges qui sont conformes aux vitraux à la fois de la salle principale du gymnase et de l'entrée où le vitrail d'entrée est très orangé.
Les clubs sportifs sont invités à reprendre leur entraînement au gymnase dès cette semaine.
On va rester exactement sur le même schéma d'utilisation, c'est-à-dire que ce sont la GRS et le basket qui utilisent principalement cet établissement et le tir en rez-de-chaussée mais qui n'a pas été impacté du tout par les travaux. Oui, ça y est, enfin, j'ai envie de dire enfin. Donc on livre ce bâtiment qui est le troisième ou le quatrième que nous livrons au niveau de la mairie actuellement. Et des bâtiments, on livre de beaux bâtiments en ce moment et j'en suis très fier. Oui, on est à 5-6 minutes du haut de la rue Nationale et c'est un site qui est très accessible effectivement, peu connu des Caladois, des jeunes Caladois, puisque les anciens le connaissent beaucoup par la piscine, moins connu des jeunes mais qui est tout à fait accessible. C'est très facile de venir jusque là, effectivement il y a le parking, alors pour les voitures on a le parking Bointon derrière, mais effectivement à pied ou en vélo c'est très facile de venir jusqu'ici.
Une nouvelle étape dans le programme de rénovation, sauvegarder et se réapproprier le patrimoine pour Thomas Ravier, maire de Villefranche.
C'est un bâtiment d'abord qui est un bâtiment avec une vraie valeur patrimoniale, hein, avec son style art déco, fait par Léon Weber, un architecte bien connu ici. Donc c'est vrai que ça a été une piscine, c'est devenu un gymnase, donc on va lui conserver cette vocation de gymnase dans un premier temps, mais en ayant fait des travaux à la fois environnementaux, patrimoniaux et d'accessibilité. Et puis l'idée petit à petit, c'est de l'ouvrir aussi à de nouveaux usages, d'arriver peut-être à trouver de nouveaux espaces pour les clubs sportifs qui l'occupent, ce qu'on leur avait expliqué au départ, hein. Trouver de nouveaux espaces pour eux, et dès qu'on aura réussi à répondre à ces demandes, du coup d'avoir une salle qui soit plus réusage et qui puisse profiter à tous les Caladois.
Développer, renforcer et consolider l'offre existante des équipements sportifs.
Oui, alors sur le côté accessibilité, c'est assez cadré sur le plan légal avec des deadlines, etc. débutoires, donc on le fait bien entendu. Sur le côté environnemental, bien entendu, c'est l'air du temps, mais enfin c'est une vraie volonté d'aller un petit peu plus loin que les obligations. La provision en géothermie, on n'avait pas autant d'obligations que ça, mais on a voulu être vraiment pousser la logique jusqu'au bout, à la fois sur le plan bien sûr environnemental et économique. Donc on est parti là-dessus, et c'est vrai qu'en même temps, ce bâtiment, c'est quand même un bâtiment assez unique, quoi, à la fois dans la mémoire des Caladois, mais dans son architecture. Et c'est vrai qu'on trouvait dommage de faire à la fois, même si c'était déjà bien, de l'environnemental et de l'accessibilité, sans lui redonner tout son lustre d'antan, quoi. Et je trouve que la rénovation est à la fois permet de moderniser le bâtiment, mais en même temps aussi de souligner toutes ses caractéristiques d'époque.
Transformer, rénover et optimiser les espaces pour la ville.
Ce qu'on essaye de faire, c'est que tous nos bâtiments, on a quasiment 200 000 m² de bâtiments dans une ville comme Villefranche. C'est beaucoup, hein, beaucoup pour les écoles, pour la culture, pour le sport. C'est de se dire qu'une salle, quitte à être chauffée, quitte à être gardiennée, quitte à être éclairée, autant qu'elle soit utilisée toute la journée. Alors là, actuellement, on l'a dit, plutôt à vocation sportive, avec la journée les scolaires, le soir des clubs sportifs. Le but, c'est d'optimiser encore cela et de le faire sur l'ensemble de nos salles. C'est-à-dire que quand on crée un équipement, aujourd'hui, on ne veut plus qu'il ait un usage unique pour un club unique ou pour, j'allais dire, une activité unique, mais qui puisse, j'allais dire, foisonner et être utilisé en permanence. C'est comme ça aussi qu'on rentabilise à la fois les coûts d'investissement qu'on fait, mais surtout les coûts de fonctionnement.
D'où peut-être un jour, effectivement, de mutualiser celle-ci.
Oui, je l'ai dit, dans un premier temps, ce qu'on aimerait, il y a quelques créneaux disponibles, c'est l'utiliser pour des événements à vocation municipale. Ça permettra d'abord au Caladois de le redécouvrir, hein, même si en revanche, on organisera effectivement des visites pour faire redécouvrir tout ça à tous ceux qui le souhaitent. Mais c'est vrai qu'à terme, l'idée, c'est d'arriver peut-être à relocaliser les deux clubs de sport qui l'utilisent aussi dans d'autres équipements sportifs, soit existants, soit à créer, pour ensuite vraiment lui donner une vocation pluriusage qui soit la plus large possible.
C'était Thomas Ravier, maire de Villefranche, dans le cadre de la rénovation du gymnase de la Halle Bointonf. L'appel du large, un été contemporain 2024 à l'espace Cornil du musée municipal Paul Digny à Villefranche-sur-Saône. Le reflet de 10 artistes de la jeune création contemporaine de diverses origines. Une deuxième vision d'une nouvelle fenêtre sur le monde qui nous entoure. Marion Ménard, directrice du musée Paul Digny.
L'exposition donc de printemps-été, voilà, qu'on fait tous les ans, souvent donc c'est axé sur l'art contemporain. Et puis avec l'envie aussi de multiplier des partenariats, voilà, des échanges avec différentes structures culturelles du territoire. Donc, comme l'année dernière, on avait fait une exposition en partenariat avec le FRAC, l'Auvergne, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Et là, on s'est dit que du coup, ça pouvait être intéressant de travailler avec l'association Le Grand Large, donc, qui est à Lyon et qui est là pour vraiment aider, propulser les jeunes artistes qui sortent des différentes écoles des beaux-arts de la région pour affronter ce monde professionnel à la sortie de l'école, leur donner le confort en fait, de développer leur propre pratique personnelle avec la mise en place de ces ateliers en résidence. Et cette association fait des portes ouvertes. Donc on y était allé plusieurs fois voir les différents artistes dans leurs ateliers. Et on s'est dit, puisque le musée Paul Digny vraiment met en avant les artistes qui ont un lien de vie ou de travail avec le territoire, c'était tout à fait pertinent de mettre là un focus sur la jeune création contemporaine, ces jeunes artistes qui travaillent sur notre territoire, qui sont un peu l'avenir de ce qu'on verra peut-être pour certaines œuvres dans les musées dans quelques années. Donc de mettre un focus et puis de présenter 10 artistes qu'on a choisis un peu selon nos coups de cœur dans les ateliers du Grand Large.
L'appel du Large, c'est également le cas pour plusieurs de ces artistes.
C'est vrai que quand on a choisi les artistes, on ne s'est pas du tout attaché à leur nationalité, mais il s'est trouvé, en faisant le compte à la fin des 10, qu'il y en avait en effet 7 qui étaient d'origine étrangère. Donc on a Chine, Corée, Thaïlande, Suisse et Iran. Et France, bien sûr.
Et tous ces artistes avaient pour choix de choisir dans la collection Digny une œuvre qui pouvait leur parler par rapport évidemment à eux-mêmes.
Voilà, en effet, on voulait faire aussi ce voyage dans le temps en mettant en confrontation une œuvre déjà dans notre collection avec leur propre travail. Donc c'était vraiment, ils ont pu visiter les réserves, nous poser des questions et choisir quelque chose qui leur parlait, qui était vraiment en résonance avec leur propre travail. Donc certains ont choisi très vite, c'était un peu une évidence, et d'autres ont eu besoin de s'imprégner, de rentrer vraiment dans les œuvres, de comprendre la démarche artistique des artistes. Et ils ont tous écrit un petit texte, on leur a demandé d'expliquer cette démarche.
Quel regard à l'autre ?
Pour la plupart, c'était vraiment des découvertes, des artistes qu'ils ne connaissaient pas, hormis Clémentine Chalençon, qui a choisi une œuvre de Ravier, qui est donc un peintre de paysage du 19e siècle, qu'elle avait déjà vue au musée. Mais sinon, tous, c'est des découvertes. Donc, on a deux peintures anciennes du 19e siècle, et puis sinon, c'est plutôt des artistes contemporains. Et tous, en fait, c'était soit une démarche plastique, des ressemblances. Par exemple, Damien Béguet avec. C'est Niloufar Bassari, artiste iranienne, qui l'a choisi parce que c'était une sorte de carreaux de couleurs qui lui rappelaient à la fois les couleurs des miniatures persanes et puis les carreaux émaillés en fait qu'on retrouve dans l'architecture iranienne. Et ce travail sur les points colorés qu'on retrouve dans son propre travail. Soit des éléments marqueurs en fait visuels ou d'autres artistes où c'était vraiment sur de la photographie, des similitudes études plastiques ou des démarches pour Suzy Albiac, une photographe qui a choisi une photographie de Véronique Elena qui représente une plage d'Étretat. Il y a ce même rapport à la nature, cette impression que ça continue son histoire. Elle a retrouvé dans la photographie de Véronique Elena une photographie qu'elle aurait pu prendre elle-même, en fait, qui était vraiment dans la même logique, ces émotions ressenties face à la nature et puis le rapport au temps, à l'humain qui regarde ce paysage. C'est tous des démarches différentes.
L'exposition L'Appel du Large, ce sont 10 sensibilités diverses qui invitent à la réflexion, à la contemplation, à l'émotion. Nous sommes les témoins des étapes de leur voyage artistique personnel. Une rencontre avec deux des jeunes artistes.
Razaleh Bahiri, un petit peu particulier puisque l'on vous a demandé de faire le choix d'une toile de la collection Musée Dini et vous vous êtes rapprochée de Isabelle Jaous, bien évidemment, qu'on connaît bien ici.
D'abord, c'était une femme. Pour moi, c'était très important. Et puis, à la base, elle travaille sur noir et blanc, ce que j'ai fait toujours depuis début. Et ça m'a attiré l'attention, les noirs et blancs. Et après, j'ai approché, j'ai vu qu'elle fait un papier spécial qui est entre papier et tissu. Elle a sa propre technique. Et puis, les détails, les animaux, tout ça, ce qu'elle utilise, les portraits sans visage, tout ça. Ce que j'ai vu sur son travail, ça m'a touchée vraiment. Et elle avait sa propre technique et moi, j'avais des œuvres un petit peu en résonance. Et puis, comme j'étais un petit peu obligeant pour dire de choisir une œuvre de collection. Ils n'ont pas une œuvre, noir-blanc. J'ai choisi ça, mais c'était très proche de ma dernière série intitulée Petite allégorie d'une grande révolte, qui avait des portraits sans visage et puis les couleurs, les motifs, c'était très rapproché.
La vocation de l'artiste photographe Lia Chopanaouiz découle, nous confie-t-il, de méditation, de longs séjours de son enfance ou en monastère.
Lia Chopanaouiz. Oui, je viens de Thaïlande. Ça fait 3 ans que j'habite à Lyon. Après l'exposition, j'ai choisi beaucoup les images qui liaient avec de l'eau, en fait. Parce que moi, j'aime bien de l'eau, l'eau qui fait le voyage, la mentalité, tout ça. Et de l'eau, il est partout. Depuis à l'époque, on a voyagé avec de l'eau.
Vous avez vous-même voyagé sur l'eau?
Oui, parce que j'ai changé le pays souvent, en fait. J'aime beaucoup le voyager dans le monde.
Et il faut dire aussi que la Thaïlande, c'est un pays d'eau et d'humidité.
Oui, en Thaïlande, il y a de l'eau partout, la mer partout.
Bien sûr, c'est aussi ce qui vous a peut-être inspiré finalement, c'est en vous?
Oui.
On ne va pas dire que vous êtes un naturaliste, mais vous vous intéressez énormément à la nature. Hein. Il y a même un côté même assez spirituel dans ce que vous faites, je voulais presque dire. Hein.
Oui, en fait, j'ai fait ma pratique sur la photographie parce que c'est quelque chose qui capturait le moment, qui sont capturés le temps passé.
Et vous avez aussi de la spiritualité.
Oui, oui, oui. Dans ma pratique photographie, c'est quelque chose qui fait ma pratique méditation. En fait, il m'a posé beaucoup de questions sur l'observation des choses dans la nature et observation de la trace de l'homme.
Retrouvez le travail de 10 artistes actuels ou ex-résidents des ateliers de l'association Le Grand Large à Lyon, une rencontre artistique de diverses sensibilités et d'origines qui enrichit ce voyage au cœur des univers plastiques. Dès à présent et jusqu'au 22 septembre à l'espace Corneille au musée Paul Dini à Villefranche. Nous vous proposerons de retrouver dans nos éditions prochaines l'intégralité des entretiens des artistes de l'expo. À l'occasion, une rencontre avec les artistes aura lieu également le samedi 23 mars à 15h au musée. Plus d'infos sur le site, bien sûr, musée-pauldini.com et Facebook et Instagram.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.